Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce journal de Nu Info. Au menu, le Conseil de sécurité condamne l'attaque meurtrière au Niger. Près de 1000 migrants interceptés et renvoyés en Libye au cours des deux premières semaines de 2020. Le HCR lance un appel de fonds de près de 500 millions de dollars pour ses opérations au Soudan. Et en dossier, nous marquons le 10e anniversaire du tremblement de terre en Haïti. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné l'attaque terroriste meurtrière perpétrée la semaine dernière au Niger. 89 soldats nigériens ont été tués dans l'attaque de leur base, dans l'ouest de ce pays du Sahel, tout près de sa frontière avec le Mali. Les membres du Conseil ont respecté lundi une minute de silence en hommage aux victimes. Ils ont également écouté l'ambassadeur du Niger aux Nations Unies, Abdou Abari, dont le pays est membre du Conseil. On écoute l'ambassadeur Abari.
Je voudrais exprimer ici les sentiments de gratitude de mon pays aux Nations Unies dont les agents sur le terrain soutiennent le gouvernement, ainsi qu'aux pays amis, en particulier la France et les États-Unis d'Amérique, sans le soutien desquels les victimes auraient été certainement plus nombreuses. Leur action aura également permis la neutralisation de plusieurs dizaines de terroristes alors qu'ils tentaient de fuir lâchement après avoir accompli leur sale besogne. Le Niger, le Sahel et l'Afrique de l'Ouest ont besoin de votre soutien à vous tous, je dirais, car la menace à laquelle ils sont aujourd'hui confrontés est une menace à la paix et à la sécurité internationale et à ce titre, elle requiert l'action de tous.
Près d'un millier de personnes ont été interceptées en deux semaines au large des côtes libyennes. Il s'agit de migrants et de réfugiés originaires des pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, mais aussi de 17 Libyens. À Genève, Safam Selly, une porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations, a donné plus de détails lors d'un point de presse.
At least 953 migrants.
Au moins 953 migrants, dont 136 femmes et 85 enfants, ont été interceptés et renvoyés vers la Libye au cours des deux premières semaines de 2020. La plupart ont été débarqués à Tripoli et tous ont été renvoyés dans des centres de détention. Les navires de recherche et de sauvetage des ONG ont déclaré avoir secouru 237 autres personnes. Ces migrants de retour font partie des plus de 1000 personnes qui ont quitté la Libye par la mer depuis le 1er janvier, poussées en partie par les affrontements les plus violents que Tripoli ait connus depuis le début des hostilités il y a 9 mois. Au point de débarquement en Libye, les migrants ont indiqué au personnel de l'Organisation internationale pour les migrations que l'escalade des hostilités à Tripoli et ses environs et la détérioration de la situation humanitaire sont les principales raisons de cette hausse des départs.
L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a lancé un appel à davantage de soutien de la part de la communauté internationale. Cet appel de fonds de 477 millions de dollars américains vise à venir en aide à plus de 900 000 réfugiés dans le pays, ainsi que près d'un quart de million de leurs hôtes soudanais au cours de l'année 2020. Cet appel intervient au moment où le pays traverse une transition politique historique, comme l'a expliqué devant la presse ce matin à Genève Babar Balok, porte-parole du HCR.
Our call comes at a time when the country is going through a historical political transition.
Notre appel intervient au moment où le Soudan traverse une transition politique historique et a besoin de la solidarité internationale pour parvenir à la paix et à la stabilité. Ce pays a une longue histoire d'accueil de réfugiés, mais il lutte également contre son propre déplacement interne tout en étant confronté à une grave crise économique. Parmi les personnes accueillies au Soudan, la majorité sont des Sud-Soudanais, avec quelque 840 000 réfugiés depuis 2013. Des ressources sont également nécessaires pour d'autres réfugiés originaires de 9 pays qui ont cherché à se mettre à l'abri de la violence et de la persécution. Dans l'intervalle, le Soudan continue également d'accueillir de nouveaux réfugiés au Darfour, en Afrique contre des réfugiés centrafricains. Dans les régions reculées des États du Sud et du Centre du Darfour, a fait passer en 3 mois le nombre de réfugiés d'environ 5 000 à près de 17 000 depuis septembre 2019.
L'Organisation mondiale de la santé a déclaré lundi qu'elle travaillait avec les autorités thaïlandaises et chinoises à la suite de rapports confirmant qu'un nouveau coronavirus avait été identifié chez une personne en Thaïlande. Les coronavirus sont une grande famille de virus qui provoquent des maladies allant du rhume à des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient et le syndrome respiratoire aigu sévère. Le 12 janvier 2010, un séisme de magnitude 7 a frappé Haïti. La moitié de la capitale a été détruite. La catastrophe a fait près de 220 000 morts et plus d'un million d'habitants ont été déplacés. L'une des survivantes, Sophie Boutot de la Combe, se souvient. Au moment de la catastrophe, elle était enceinte de 7 mois, à quelques jours de son congé de maternité. Porte-parole de la mission de l'ONU, elle se trouvait au siège de la MINUSTAH lorsque le tremblement de terre a frappé. Connor Lennon a recueilli son témoignage.
J'étais dans mon bureau quand il y a eu le tremblement de terre, en réunion avec deux collègues du sixième étage. Et dès que ça a commencé à trembler, on s'est mis sous les bureaux. Et quand ça a été terminé, je suis sortie et je suis allée voir tout au fond du couloir parce que c'était un cul-de-sac. Et il y avait une grande poussière blanche partout, de la poussière de béton. Certains collègues qui essayaient de sortir et donc on les a tous dirigés vers le bureau du chef de la communication parce que le building avait perdu totalement son entrée. Donc on ne pouvait pas sortir. À ce moment-là, les militaires s'étaient organisés et avaient posé une échelle sur un mur qui reposait donc l'échelle sur une fenêtre, de façon à aider à faire sortir les personnes. Comme j'étais enceinte de 7 mois et demi, tout le monde m'a demandé de sortir en premier, ce que je n'ai pas souhaité faire sur une échelle posée sur un mur. Donc on a tous regardé pour essayer de trouver une autre sortie et on a vu un des murs de l'autre côté du bâtiment qui s'était ouvert et qui, par cette ouverture et les remblais de la destruction de ce mur, permettait de sortir de l'autre côté. Donc on a prévenu tous les collègues et on est sortis par là. C'était très émouvant et en même temps un état de choc pour tout le monde parce que je voyais quand on était arrivé devant l'entrée principale qu'il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que les 6 étages du building n'existaient plus. Il n'y avait plus qu'un amas de remblais au niveau du sol. Et comme je suis une ancienne officier de la Marine nationale française, j'ai tout de suite demandé à la sécurité de mettre un cordon de façon à ce qu'on puisse compter les personnes qui étaient encore dans le building ou celles qui étaient sorties, de façon à ce qu'on sache un petit peu qui il fallait sauver, et donc de fermer le portail extérieur du quartier général, d'organiser avec les collègues philippins les heures qui ont suivi. Puisque le tremblement de terre a eu lieu un tout petit peu avant 5 heures du soir, la nuit est tombée une heure après ça, et il a fallu s'organiser avec tous les collègues qui étaient sortis du bâtiment et ceux qui étaient encore à l'intérieur et dont on n'avait pas de nouvelles. Les jours qui ont suivi, ça a été très compliqué pour tout le monde. On a été évacués vers la base logistique qui était au niveau de l'aéroport. L'aéroport ne fonctionnait plus à ce moment-là et on a dû réorganiser.
Je vois que tout de suite, vous avez pensé à votre travail, vos collègues. Mais maintenant, quand vous réfléchissez à ce moment-là, est-ce que vous étiez vous-même dans un état de choc ?
Non, je pense que le choc est venu plus tard. C'est-à-dire que comme je devais partir en congé maternité le samedi et que le tremblement de terre a eu lieu un mardi, tout était prêt. Mon successeur était déjà formé, présent sur place. C'est-à-dire que moi, j'ai été évacuée le jeudi, donc 2 jours après le séisme, parce que tout le monde avait peur que j'accouche sur place. J'étais enceinte de 7 mois et demi. Le choc pour moi est venu 3 jours après, quand j'étais déjà en France depuis 2 jours et où j'ai réalisé ce qui se passait en faisant le retour un petit peu sur cet événement. Mais je crois que oui, on était tous très concentrés sur le fait d'aider et de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui sont là au moment où ça se passe. Donc après avoir accouché, je suis revenue en Haïti. Je suis revenue l'été 2010 pour assurer la transition entre le chef de communication de l'époque qui partait et son successeur qui arrivait. Et ça a été émotionnellement difficile de revenir, en fait. Je pense que le choc a vraiment fleuri à ce moment-là dans toutes ses réminiscences parce que je n'étais plus capable de travailler correctement. Les émotions me prenaient en permanence. Et pour une porte-parole, ça ne fonctionne pas vraiment d'avoir envie de pleurer à chaque fois qu'on fait une interview. Donc j'ai dû me reconstruire. Je suis partie d'Haïti. J'ai travaillé au tribunal spécial pour le Liban pendant 2 ans avant de pouvoir revenir début 2013 parce que je voulais revenir et continuer le travail avec mes collègues internationaux haïtiens, avec les différents amis que j'ai rencontrés en Haïti et surtout pour le peuple haïtien parce que cette tragédie a bouleversé un petit peu le travail de tout le monde. Il y a eu beaucoup de pertes aussi au niveau des fonctionnaires nationaux, donc l'État a dû aussi se reconstruire.
Voilà, fin de ce journal de Nu Info à retrouver sur notre page internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.